With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Salut à tous, très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode du Dunk Hebdo NBA Podcast. On se retrouve cette semaine pour parler d'une des équipes sensation, une des jeunes équipes sensation de cette saison, les Grizzlies de Memphis. Les Memphis qui ont un effectif plus jeune en moyenne que la moyenne d'âge des intervenants de ce podcast. Et oui, Tom et Alan, il est fini le temps des années où les prospects avaient à peine notre âge. On est des vieux Crouton. Comment ça va, Alan, pour commencer?
Ça va. Ouais, c'est vrai, maintenant, cette année, quand tu vois que les freshmen sont des 2003, ça fait très très mal.
Ça fait quand tu vois que cette équipe est plus jeune que nous, ça fait très mal. Quand tu vois qu'on est plus proche, limite, de Steven Adams que des jeunes du corps et des plus importants. Bref, comment ça va, Tom?
Ça va, surtout pour quelqu'un qui est plus âgé que Steven Adams. Pour le coup.
En plus, c'est vrai que tu nous aides pas au niveau de la moyenne d'âge. Bref, en tout cas, on va parler de ton équipe. Tom, c'est vrai qu'on a cette tendance du côté de Dunk Hebdo à parfois moins parler des équipes de nos intervenants, dans un souci, je sais pas, d'équité.
Ou alors c'est que ça va très mal, en fait, des fois.
Oui, ou parfois ça va très mal. C'est vrai qu'on n'a pas toujours eu les... Il n'y a pas toujours eu les meilleures équipes parmi l'équipe. En tout cas, cette semaine, on va parler des Grizzlies qui caracolent dans les premières places de la Conférence Ouest. On va donc se poser plein de questions, beaucoup de questions, la plupart qui émanent du cerveau de notre fan des Grizzlies, ici présent, Tom. On vous rappelle, comme d'habitude, de nous suivre sur les plateformes Podcast Addict, Apple Podcast, Spotify, Acast, maintenant, on vous l'a dit, on est maintenant dans le réseau Acast, et puis bien évidemment sur YouTube, j'ai encore espoir, on s'approche petit à petit, on va y arriver aux 1000 abonnés d'ici le début des playoffs, j'ai bon espoir. On marque une petite pause et puis on se retrouve pour partir du côté du Tennessee. Cap donc sur Memphis après avoir retrouvé les playoffs la saison dernière pour la première fois depuis 2016-2017. Et voilà les Grizzlies à égalité, avec les Warriors, deuxième à l'ouest. On peut dire que c'est un véritable succès pour une équipe. Tom a aimé nous le rappeler en off, que certains n'annonçaient même pas en playoff. Bah, les voilà bien installés avec probablement, même très probablement, l'avantage du terrain au premier tour. Alors je vais commencer pas par Tom, mais par toi, Alan, parce que je sais que Tom, ensuite, aura plein de choses à nous dire. La première question de notre âme, elle est assez simple. Bah, comment on peut expliquer ce succès, hein? Quelles sont les raisons du succès des Grizzlies et de cette deuxième place à l'ouest?
Bon, ça se résume
et de la NBA.
Tu fais bien de mentionner. Je sais que ça t'aime toujours bien mentionner que l'ouest est meilleur que l'est, même tout en haut. Donc, le deuxième de l'ouest a un meilleur bilan que le premier de l'est, Tom, il faut le dire.
Avec, le troisième aussi.
Avec Memphis, c'est vrai. Comment je le qualifierais? Je qualifierais ça par trois axes principaux pour moi. Un, l'ascension de Ja Morant en année 3, qui est passé d'un joueur qu'on n'avait pas dans notre DH20, un joueur que Tom, moi et Adrien avaient fait le classement des meilleurs joueurs de moins de 23 ans. Il n'était pas dans l'un des deux premiers tiers. Il n'était pas dans le, on appelle ça, la course avec Zion, Tatum. Moi, je l'avais même derrière Trae Young, je l'avais derrière
des gens comme ça.
Je crois que Tom l'avait derrière De'Aaron Fox ou des choses comme ça. Il est un candidat au NBA cette année, donc c'est une ascension. Deuxièmement, le fait que en Jaren Jackson, ils ont trouvé pas encore leur poste 5 ancre défensive, mais ils ont un des joueurs qui est un des meilleurs défenseurs de la NBA en termes statistiques. C'est dû, on en parlera, je pense, parce qu'il est avec Steven Adams, mais c'est dû aussi à une progression. Et troisièmement, ils font pas jouer de mauvais joueurs sur le terrain. Il n'y a jamais de mauvais joueurs sur le terrain. Alors des fois, il y a des joueurs plus négatifs que d'autres. Zaire Williams, c'est un rookie, même s'il est drafté en loterie, par moment, il a des matchs où bah, c'est un peu compliqué. Mais en fait, cette équipe-là, quand même avec des blessés, tu fais sortir du banc Tyus Jones, D'Anthony Melton, Brandon Clark, tous ces joueurs-là, c'est jamais... En fait, tu prends jamais l'eau, tu prends jamais. Ils sont toujours dans les matchs. Et ensuite, tu arrives dans les fins de match et t'as Jamorant qui, je pense, est déjà par le fait qu'il peut accéder au cercle à peu près contre tout type de défense, drop, switch et compagnie. Et ben, il te tue dans le clutch. Donc, je pense que cette combinaison-là fait qu'ils sont très forts cette année.
Pas de mauvais joueurs. Progression de Jamorant et aussi donc. On va dire progression défensive de Jaren Jackson. Donc, c'est le cocktail, selon Alan, qui a amené ce succès des Grizzlies. Deuxième bilan de la NBA. Je me rattrape, Tom. Du coup, comment toi, tu expliques le succès de ton équipe?
Ben, j'avais noté quasiment les mêmes raisons. Quelque chose pour illustrer deux points qu'Alan a évoqués. Par exemple, la station de Jamorant. On parlait d'un joueur l'an dernier qui était potentiel All-Star, qui aurait pu faire le cut, mais finalement qui l'a pas fait, à un joueur qui est aujourd'hui potentiel MVP et un peu en discussion pour la All-NBA First Team, avec par exemple Curry et Chris Paul, voire même DeMar DeRozan, si lui est considéré comme un guard. C'est un joueur qui réalise probablement la meilleure saison individuelle de l'histoire de la franchise, alors que c'est sa troisième saison. Il est passé à aujourd'hui à 27 points, 34% d'usage, 57% de true shooting, dont notre fameux 54% à deux points. On sait que Alan et moi, on insiste beaucoup sur le pourcentage à deux points, tout autant que le pourcentage à trois points. Simplement pour illustrer la partie profondeur, par exemple, Jamorant et Desmond Bane sont les seuls deux joueurs de l'équipe, en fait, qui jouent plus de 30 minutes. Donc ça prouve en fait que l'équipe a les moyens à chaque fois de jouer avec énormément de joueurs. D'ailleurs, le coach Taylor Jenkins, c'est quelqu'un qui a une rotation à 10 joueurs et qui se tient à sa rotation à 10 joueurs tous les soirs, sauf Blowout. Et la dernière chose que je dirais vraiment, c'est le fait qu'en fait les joueurs qui composent cette équipe-là n'ont pas eu une progression linéaire et qu'on est sur une progression vraiment exponentielle par rapport à l'année dernière pour tous les joueurs majeurs du projet.
Faut savoir, je faisais la petite recherche en direct parce que je me posais la question. Jamorant n'était même pas dans le top 25 des cotes à Vegas pour le MVP. Il était même pas dedans et il se retrouve cinquième à l'heure où on parle. Et c'est vrai que même s'il y a un trio de joueurs qui semble se détacher, c'est vrai que dans cette course aux accessites ou plus qu'aux accessites, bah c'est devenu un des favoris au fil de la saison avec les petites blessures de Chris Paul, etc. On a donc expliqué ce qui explique la progression d'abord. Les gars, donc il y a eu l'arrivée de Jamorant, l'explosion de Jamorant, et on sait en saison 3 qu'un porteur de balle qui explose, forcément, ça va diffuser sur tout l'effectif. Ça paraît assez évident qu'il y a des pointes exceptionnelles. Jamorant, cette année, je marquais 6 matchs à plus de 35 points, enfin un record en carrière il y a quelques jours, là, alors qu'on enregistre. Donc il y a cette explosion-là. Mais du coup, qu'est-ce qu'ils font, Tom, qui sont une bonne équipe cette saison? Parce que progresser, c'est une chose, mais arriver top 2, top 3, qu'est-ce qu'ils font de si bien?
Alors, t'as la régularité, t'as le clutch qui permet à une équipe, à l'équipe du coup, d'avoir un net rating un petit peu plus bas entre guillemets que ce que son bilan global aurait voulu, parce que ils sont incroyables dans le clutch. C'est le troisième net rating dans le clutch avec plus de 13.5. Il y a que les Clippers et Phoenix qui font mieux. Bon, Phoenix c'est n'importe quoi, ils sont à plus 30. laisse tomber. Donc t'as ce facteur là. T'as aussi le facteur continuité, puisque c'est un effectif qui se connaît bien et qui a opté, par exemple, cette saison pour avec les transferts qu'il y a eu à l'intersaison, ils ont fait l'addition par soustraction pour permettre à plus de joueurs qui soient pas négatifs d'un des deux côtés du terrain de jouer. Du coup, ça te permet d'avoir une bonne base défensive et une forte base offensive. Et il y a quelque chose qui est très important, c'est la notion de pilonnage et d'intensité. Le fait de jouer souvent à 10, ben en fait, les joueurs qui jouent, ils ont des runs où ils peuvent être... ils n'ont pas à se gérer, ils n'ont pas à gérer leur énergie. Donc du coup, tu as énormément d'intensité pour chaque joueur qui rentre sur le terrain avec énormément de ce qu'on appelle les stocks. Donc tout ce qui est... du pilonnage sur des interceptions, des contre-attaques, des contres, le rebond offensif, même si c'est la meilleure équipe de la ligue sur le rebond offensif, Steven Adams a 40 rebonds offensifs de plus que le deuxième du classement, c'est incroyable. Et tout ça, en fait, ça permet à l'équipe, même en étant juste moyenne, entre guillemets, dans sa réussite offensive, ben, en multipliant les chances, d'avoir du coup d'arriver à l'équilibre et de trouver du coup son équilibre avec cette stratégie de pilonnage un peu comme on avait discuté de Toronto en début de saison.
Ça fait un petit peu penser à une équipe qui joue sur les attributs de sa jeunesse à l'heure actuelle. Ouais. C'est-à-dire ça c'est souvent un profil d'équipe. On en parlera un peu plus tard de cette distinction entre bonne qui est très importante pour Tom. Préparez-vous. Entre bonne jeune équipe et jeune bonne équipe, on expliquera la différence ici. Et c'est vrai que quand on fera un petit peu l'historique, c'est vrai que cette capacité à être dans l'intensité, au rebond, etc., bah, c'est souvent ce que font les jeunes équipes.
Ouais, complètement. Ils jouent dur. Puis comme le dit Tom, il y a cette stratégie de pilonnage, cette stratégie des stocks, mais aussi cette stratégie de 48 minutes de très bonne création sur les bases extérieures. Tyus Jones, c'est un des tout meilleurs meneurs backup. On a vu même que quand Ja Morant a raté des matchs, il a fait des très bons matchs en tant que titulaire. Donc en fait, il y a toujours de la bonne création. Desmond Bain, c'est pas qu'un shooter, c'est pas qu'un spot-up shooter ou même un joueur qui est un des meilleurs. C'est peut-être un des meilleurs tireurs de la NBA depuis qu'il arrive en NBA, depuis qu'il est arrivé plus tard que d'autres rookies. Mais c'est aussi cette année, je trouve, un bon créateur. Il avait développé ça sur sa fin de carrière universitaire et on voit qu'en fait, bah, avoir autant d'expérience balle en main, ça lui permet de pouvoir faire des petites créations de pick and roll sur création secondaire. Il peut faire ce genre de choses. Et puis ils sont grands en fait. Moi, je trouve ils sont très grands. Ça joue vraiment grand. Jackson, Adams. Clark est pas très grand, mais il est vertical, on va dire. Donc, il va très haut. Des fois, ils ont même joué avec Killian Tilly sur le poste 3, Zaire Williams sur le poste 3. Donc, en fait, ça t'aide défensivement sur la longueur, ça t'aide au rebond offensif, comme l'a dit Tom. Ça te donne des secondes chances. Ça te permet d'avoir des menaces de lob pour Tyus Jones et pour Ja Morant. Donc, tu pilonnes à l'intérieur. Et je pense que soir après soir, c'est là que tu as la différence, plus que des équipes qui sont plus dans la variance du tir ou des choses comme ça.
Quelque chose à rajouter, Tom, dans ce portrait global des Grizzlies, avant qu'on glisse sur la question de la jeunesse, ou est-ce que ça va ?
Non, ça va. Après, c'est simplement sur le côté, en fait. Le truc, c'est que quand tu te ramènes, par exemple, face à des bons NBA, et que t'as généralement sur les bons NBA, t'as des joueurs qui sont soit des one-way players, soit des jeunes joueurs qui font pas mal d'erreurs, et toi, tu te ramènes avec, par exemple, Tyus Jones, D'Anthony Melton, Kyle Anderson et Brandon Clark, tu vas forcément faire des différences, en fait.
C'est un peu un des thèmes récurrents.
Xavier Tillman ne joue pas.
Oui.
Voilà. L'année dernière, il était dans le clutch des matchs de playoff pour Memphis, hein. Et cette année, il ne joue pas parce qu'il n'y a pas de place. L'effectif est super profond.
Eh bien, on y reviendra. C'est souvent une recette gagnante en play-off, en tout cas en fin de saison régulière. On va donc attaquer, avant de faire un petit bilan joueur par joueur, on va attaquer cette question de la distinction entre une jeune bonne équipe et une bonne jeune équipe. Alors, oui, grammaticalement, ce n'est pas correct au niveau de l'ordre des adjectifs ici, mais on va se retourner vers Tom pour que tu nous expliques pourquoi, selon toi, on devrait arrêter de parler uniquement peut-être de la jeunesse des Grizzlies ?
Parce qu'en fait, Memphis, c'est une très bonne équipe cette saison, tout avant d'être une jeune équipe, en fait. C'est pour ça, en fait, que pour moi, la distinction est importante. Puisqu'en fait, quand tu t'attends à une bonne jeune équipe, une jeune, entre guillemets, bonne équipe.
C'est compliqué quand on mélange des adjectifs comme ça, c'est dur.
Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que tu vas, par exemple, entendre, par exemple, les Cavs. C'est-à-dire que c'est une bonne. Les Cavs, ils sont jeunes. Mais tu vas considérer qu'ils sont jeunes avant le fait qu'ils soient bons. Ouais. Par rapport au niveau auquel ils sont atteints, sont à la NBA. Par exemple, Charlotte. On peut avoir ce même raisonnement-là. Charlotte. alors que Memphis est deuxième de la NBA. C'est une bonne équipe, c'est juste que la moyenne d'âge de l'équipe est basse. Pour moi, c'est la qualité de l'équipe la caractérise plus que sa jeunesse, en fait. Quand tu regardes le profil statistique de l'équipe, t'as pas l'impression que c'est une équipe jeune, tu vois.
On va dire que c'est grammaticalement, en anglais, on place les adjectifs par ordre d'importance avant un nom. En français, ça se fait pas. Et en fait, Tom, il voudrait qu'on place d'abord bonne plutôt que jeune quand on parle de Memphis, tandis qu'il pense que pour les Cavs, on passerait d'abord jeune avant bon. Voilà, je pense que c'est ça qu'il veut dire.
C'est très bien expliqué. C'est magnifique. ce avec quoi, je suis pas vraiment d'accord avec Tom parce que je pense que des bonnes équipes, il y en a tous les ans, mais des jeunes équipes avec ce niveau-là, il n'y en a pas. Donc, c'est pour ça qu'on veut insister sur leur jeunesse. C'est parce que c'est une anomalie. Il y avait un article de The Athletic écrit par un journaliste baseball, je n'ai pas compris pourquoi, qui est sorti il y a quelques jours, qui expliquait que depuis 2000-2001, donc ça fait quand même 21 saisons, si on compile les 5 équipes les plus jeunes de la Ligue, donc 21 x 5, vous comprenez bon, 105 équipes, il y en a seulement 19 qui avaient un bilan positif. Et un bilan comparable à celui des Grizzlies, il y en a eu 6 avant. Donc, ça explique pourquoi je pense qu'on veut d'abord parler de leur jeunesse, parce que c'est un phénomène qui n'arrive jamais. Alors oui, c'est peut-être desservir un petit peu qui ils sont actuellement et pas peut-être leur reconnaître leur vraie qualité. Mais je pense juste que c'est mettre en avant qu'on est devant un phénomène qui est très rare. Et par ailleurs, je pense que si c'est tout simplement du récit journalistique aussi. C'est tout simplement de dire « Ah, ils sont jeunes, etc. » C'est plus vendeur que de dire pour le spectateur, que de se dire « Ah, c'est déjà une bonne équipe » parce que le spectateur peut se dire « Oui, mais j'entendais pas parler d'eux, ils sont encore jeunes, etc. » Pour moi, c'est pas tellement manquer de respect à Memphis que de parler comme ça.
Mais après, c'est vrai que si tu prends d'un point de vue concret, si par exemple, je te dis pas le nom de l'équipe. Je te dis, par exemple, cette équipe-là, elle a un joueur qui est dans la course au MVP, qui est peut-être top 8 MVP. T'as un joueur qui est top 5, voire top 10 au défenseur de l'année, avec un des meilleurs shooters de la ligue, de la profondeur et un beau coach. Tu me dis, c'est soit Miami, soit les Warriors. Tu m'as dit, c'est un contender. Je t'ai dit, c'est Memphis. Tu me dis, non, c'est pas un contender.
Ah, mais parce qu'on verra. Je me garde
ça.
C'est
un autre débat, ça.
Parce que là, c'est plus... Parce qu'en fait, je pense que le début de la question, c'est reconnaître leur niveau actuel. Et là, c'est se projeter après. C'est pour ça, c'est peut-être la différence. Du coup, avant de répondre, parce qu'on fait toujours notre âme pour laisser l'apogée du podcast à la fin, on va peut-être discuter joueur par joueur. Et vous l'avez introduit tout à l'heure, on va parler de Ja Morant, qui était, vous l'avez dit aussi, pas dans le DH20, dans les discussions informelles autour du DH20, on le glissait entre à la SERP 25 et 30, 35, disons, et qui s'affirme comme un joueur qui devrait rentrer dans le DH20, mis à part catastrophe en saison régulière. Tout simplement, on sait que tu es notre préposé aux jeunes joueurs, Alan. Qu'est-ce qui a progressé du côté de Ja Morant cette année? Qu'est-ce qui a, pas changé, mais qu'est-ce qui a progressé pour que, il se retrouve comme un, Tom a dit top 8 MVP, je pense que c'était, le caractère humble de son côté supporter de Memphis, on sera sûrement très haut, quoi.
Moi, je pense que c'est... En fait, sur ces deux premières années, il arrivait à aller au cercle et parce que je pense que on le défendait pas non plus comme une superstar et parce que on était encore un peu dans le... C'est un jeune joueur, ok, il va aller au cercle. Beaucoup pensaient que ça allait passer par le pull-up, moi compris. Je pensais que pour qu'il y ait vraiment cette étape supplémentaire, il fallait qu'il prenne plus de 3 points. Pas forcément qu'il en mette un taux extrêmement élevé, mais qu'il en prenne plus et qu'il soit une menace là-dessus. Mais en fait, aujourd'hui, Ja Morant, c'est le joueur qui score le plus de points dans la peinture. Pas des Grizzlies, pas de l'Ouest, de toute la NBA. Donc en fait...
Devant Giannis.
Devant Giannis, devant Joel Embiid, devant... Donc en fait... Et moi, ça, je l'ai compris, je crois, dans la série contre Utah l'an dernier. Le match à 45, je crois, Tom, tu diras mieux que tu... 45 points, je crois, dans le match 1 ou le match 2.
Match 1.
Et là, j'ai dit, OK. Donc déjà, dans un setting playoff face à une défense qui joue beaucoup... qui a peut-être la meilleure arme pour t'empêcher d'aller au cercle. Rudy Gobert, c'est schématiquement, on veut pas que t'ailles au cercle, on le fait vraiment descendre pour protéger la peinture. On veut te donner d'autres types de tirs. Il a réussi sur l'ensemble des matchs avant, il y a eu le play-in contre les Warriors aussi, où il a pu faire ça également dans, contre la défense des Warriors. J'ai dit, OK, en fait, ce joueur-là, il peut aller au cercle quand il veut, où il veut, contre n'importe quel type de schéma. Donc, c'est pas vraiment qu'il a ajouté une arme à son jeu. Il est sûrement plus propre, il est plus efficace action après action, initiation après initiation. Mais c'est juste que son jeu de pénétration s'est vraiment imposé comme l'un des tout meilleurs de la NBA. Là où j'écoutais un podcast pour préparer l'émission, des joueurs comme Allen Iverson ou d'autres n'ont même pas eu ces progressions-là dans l'attaque du cercle dans le début de carrière. On parle d'Allen Iverson ou de joueurs comme ça. Donc ça prouve que, en fait, je pense qu'il va devenir l'un des extérieurs qui drive le mieux de toute la NBA. Il l'est déjà d'ailleurs.
Tom, ton constat sur la progression ou l'explosion même. Je pense qu'on peut parler, on parle de progression, mais je pense que explosion, ça serait plus, ça caractériserait mieux parce que oui, on parle souvent de cette évolution qui arrive pour la plupart des joueurs entre année 2 et année 3, mais là, c'est plus qu'une évolution.
Ouais. Garland, ouais, c'est une évolution. Ouais. Ja Morant, c'est ouais. Plus.
Garland, enfin, vu d'où ils partent, même s'ils sont pas au même niveau, vu d'où ils partent, le chemin parcouru peut.
C'est toi, parce que t'étais dur avec Garland, donc t'as l'impression qu'il a fait des super.
Aussi,
parce que Garland, aussi. Les gars, depuis, on en avait parlé l'autre fois, mais depuis l'année dernière, ouais. Déjà, enfin l'année
très,
dernière,
très il est très,
la
très
saison
fort.
D'avant, tout le monde, tous les mecs NBA ouais. Parlent de lui.
Du ouais,
il était très fort. Ouais. Du coup, par rapport à la saison de Ja Morant, en fait, pour moi, il y a vraiment deux choses. Il y a du coup la première partie de saison, les 20 premiers matchs. Où il fait limite un match sur deux, hein. Limite un match sur deux hein, où il est bon, et il y a beaucoup moins de régularité. Et t'as du coup t'as deux choses qui se passent. T'as un moment on est à 10-11, t'as un blowout à Minnesota, on perd je crois de 48 points quelque chose comme ça. Et ça commence déjà à se réveiller. Il y a un sursaut d'orgueil juste après à Toronto. Et ensuite, il y a le fameux match face aux Hawks, juste avant Thanksgiving, où Ja Morant se fait limite le genou. Et t'as l'impression que sa saison est terminée. Ouais. Et en fait, ça, il a pu en fait utiliser. Du coup, il y a un très bon article en fait sur Sport Illustrated à ce sujet-là de Rowan
Boani,
quelque chose ouais. Comme ça. En fait, qui explique que pendant cette période-là, en fait, Ja Morant pensait que les gens pensaient que la saison de Ja Morant allait se terminer. Et lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a repris en fait son programme de l'été. Il a repris son programme de l'été et le fait que l'équipe gagnait, il a pas eu d'urgence à revenir puisque l'équipe a fait quand même 10-2 en son
l'équipe
absence.
L'équipe était meilleure sans Ja Morant.
Voilà. nous allons pas revenir sur cette période et ces choses-là. C'est ce genre de tic mal placé. Mais globalement, en fait, il a pris le temps de revenir et quand il est revenu, ce qui s'est passé au niveau de l'équipe, c'est que pendant que la plupart des gens pensaient que Ja Morant aurait dû se réadapter entre guillemets à l'équipe puisque l'équipe gagnait sans lui, à son retour l'équipe lui a dit nous ce qu'on a fait c'est parce que t'étais pas là, mais on sait que quand on est les meilleurs quand toi t'es là. Et en fait depuis il a totalement repris une grosse partie entre guillemets de la création de l'équipe avec des grosses pointes au scoring. Il est très agressif, et limite, avant tu voyais pas Ja Morant prendre 25 shoots, 30 shoots, être aussi agressif. Et là, depuis cette période-là, en fait, à son retour, il a vraiment montré que c'était lui le patron, même si toute l'équipe le savait déjà, mais on l'a encouragé du coup à continuer à être aussi agressif comme il a pu l'être.
Du coup, Alan en parlait de notre petit spoiler, ça va être un de nos sujets d'émission dans les semaines toutes proches là, dans la hiérarchie des jeunes joueurs, il est passé selon toi dans ce tier, Alan, avec Luca, je sais plus si Luca était éligible au niveau de l'âge, je crois qu'il a passé, il a 24 maintenant, donc non, c'est mort, mais est-ce qu'il se rapproche des Zion? Bref, il y a beaucoup de cas compliqués en haut, mais où il se classe par rapport aux autres?
Je me rappelle c'était en février ou mars 2021. On avait identifié avec Tom Adrien 4 jeunes gardes qui allaient vraiment dominer la NBA. Donc il y avait Fox, Young, Morant et Shea. Et les 4 avaient des questions à ce moment-là. C'était avant le run de playoff d'Atlanta. c'était avant aussi peut-être les soucis un peu de blessures, Orteen, de Fox, hein, et puis le... Non, c'était pendant qu'OKC faisait ce que fait OKC depuis un an et demi, donc mais Shea était blessé. Donc en fait, est-ce qu'aujourd'hui, on est capable de dire que Ja Morant est un tiers au-dessus de ces trois joueurs-là? Personnellement, je peux pas le mettre au-dessus, un tiers au-dessus de Trae Young, honnêtement. Je peux pas aujourd'hui dire que c'est,
ouais,
un,
je vois.
C'est un joueur qui est vraiment, vraiment meilleur que Trae Young. Parce que défensivement, c'est pas non plus... Ja Morant est un excellent défenseur, je pense. Il défend pas excellemment bien. Par contre, j'ai pas besoin des playoffs, en fait. Je l'ai vu sur le play-in et dans la série contre Utah. Ça serait un très bon joueur de playoff. Enfin, je pense que Ja Morant sera un très bon joueur de playoff. Comme je pensais que Trae Young serait un bon joueur de playoff vis-à-vis en fait, des qualités balle en main de ses... c'est un bon joueur de playoff, Trae Young. Mais faut y a... en fait, le problème, c'est d'y aller, là. On va dire,
faut être sur YouTube pour savoir pourquoi ils ont rigolé.
Mais en fait, la question est que Ja Morant, pour moi, a rejoint, oui, a passé un cap, a passé un tiers. Et je pense que c'est déjà énorme. Les gens vont dire, ah, c'est peut-être pas incroyable, mais je suis capable maintenant de le mettre dans la même, peut-être pas à égal, mais je peux le voir dans la même classe, dans qui vont jouer construire mon équipe pour les 10 prochaines années. Je peux le voir dans la discussion avec un Jason Tatum, avec un Luka Doncic. Je dis pas qu'il est meilleur, mais il est rentré dans cette discussion-là. Il est plus dans la discussion d'avant du est-ce qu'il est meilleur que Shai Gilgeous-Alexander, De'Aaron Fox, vis-à-vis de profils comme Brandon Ingram ou autre, où est-ce que vous vous placez? Il est passé dans la case supérieure.
Si je peux me permettre une pirouette, il est donc passé de jeune bon joueur à très bon joueur. Enfin, vous voyez la distinction, on ne le définit plus par son âge maintenant et on ne le compare plus avec les jeunes joueurs. Enfin, on le compare maintenant avec les autres jeunes joueurs qui sont eux très bons et qui sont déjà
qui ont déjà prouvé
exactement.
Qui ont déjà prouvé puisque aujourd'hui par exemple si tu comparais Ja Morant dans si tu mettais Ja Morant dans un tiers, il serait peut-être le tiers avec Doncic et Tatum, ça choquerait personne, tu vois, par rapport à sa saison et les accomplissements de sa saison individuelle.
Tu pourrais même rajouter Trae Young. Je dis ça. Oui.
Oui, on peut rajouter Trae Young dans ce tiers-là. Il y a pas de souci. Pour moi, il y a pas de souci. On peut rajouter Trae Young dans ce tiers-là, même si je trouve que l'idée d'un tiers, c'est de pouvoir classer tous les joueurs de façon. Tu peux mettre n'importe qui devant.
Les interchanger.
Tu peux les interchanger, mais pour moi, j'ai du mal à interchanger Trae Young et Luka Doncic et Trae Young et Jason Tatum. Ouais. Personnellement.
Là où t'as pas de mal de les échanger avec Ja Morant, par exemple, à l'instant.
Un peu pareil.
Ok.
Même si je pense que Luka Doncic aujourd'hui est pour moi, hein, Luka Doncic par rapport à tout ce qu'il a déjà montré, notamment au niveau des playoffs et ce qu'il arrive à faire encore une fois en saison régulière, parce que on n'en parle pas Luka Doncic, mais enfin c'était le favori en début de saison pour remporter le trophée de MVP, c'est pas pour rien. Donc je pense que il est encore un peu au-dessus et même Jason Tatum aussi encore un peu au-dessus d'un point de vue two way play. Alors peut-être de niveau style de jeu et d'un point de vue diffusion, Ja Morant les rattrape de ce côté-là.
Merci, mais je trouve que la défense de Tatum, ça me fait plaisir, Tom.
C'est un très bon défenseur. C'est un très bon défenseur, Jason Tatum. C'est pas forcément ton lockdown défenseur sur le périmètre ou sur le point of attack, mais par contre pour tout ce qui est défense loin du ballon, Jason Tatum, c'est dans le top 1-1 de la NBA. Il doit être dans le 80e pourcentile à peu près. Enfin, c'est un très très fort joueur, c'est un très fort two-way player. Et c'est pour moi, ces joueurs-là sont juste un petit peu meilleurs que Ja Morant.
Ok, je pense qu'on peut clore ce. On va peut-être pas s'étendre sur Morant parce que on va parler de lui, je pense, dans les jeunes joueurs. Et c'est un joueur, vous l'avez compris, qui va, mis à part catastrophe, ou alors que... Après, je méfierais avec, il va rentrer dans le DH20 parce qu'on dit ça de 25 joueurs à cette période-là de l'année. Donc, on verra où il se classera, mais il devrait rentrer sans trop de problèmes. Tom, je te donne un petit indice pour la suite. Si je te dis faute personnelle, on parle de qui ?
Jaren Jackson Jr., le leader de la Ligue.
Le leader de la Ligue. Des fautes personnelles. Encore cette année. Alors, j'ai fait ma petite vérification. Il a égalité Avec Jason
Tate. Jason Tate. Ouais.
À l'heure actuelle. Donc, il y aura, alors, c'est une petite blague qu'on avait déjà fait dans quelques podcasts sur les rares podcasts sur Memphis et plutôt sur les jeunes intérieurs. Il est vrai que Jaren Jackson avait cette habitude de faire beaucoup de fautes. Il en fait toujours beaucoup, mais Tom, la différence cette année, c'est qu'il a pris, un niveau, ou en tout cas, il a pris une dimension, j'ai retrouvé le bon mot, en défense. Alors, comment, est-ce que tu peux nous expliquer, Tom, comment on a toujours ce petit problème de faute, mais bah, qu'il est quand même devenu un autre joueur et un candidat, allez, un des outsiders un peu lointains ou plus ou moins lointains pour le titre de défenseur de l'année?
Alors, le problème de faute, il reste tout simplement parce qu'il part de tellement loin au niveau des fautes. Par exemple, cette saison, c'est même s'il est leader de la ligue au niveau des fautes commises à égalité avec Jason Tate, comme tu l'as dit, c'est la première fois qu'il est sur moins de 5 fautes sur 36 minutes. Là où il était vraiment au-dessus. Donc du coup, il y a quand même une régression et du coup une amélioration du facteur full prone entre guillemets. Là où je trouve qu'il a vraiment énormément progressé, c'est donc premièrement, ça va être tout ce qui est timing, anticipation et patience défensivement. C'est-à-dire que c'est un joueur qui utilisait beaucoup ses mains parce qu'il était très souvent en retard. Et du coup, il était obligé de beaucoup compenser et faisait beaucoup de fautes de maladresse. Donc ça, c'est quelque chose qui est un peu disparu dans son jeu, où même si de temps en temps, il va être un petit peu trop agressif et va avoir des fautes un peu bêtes sifflées contre lui, il n'y a plus de fautes totalement flagrantes où tu vois venir le truc à 5 km. Dans tout ce qui est protection de la raquette et protection de l'arceau, alors il n'est pas forcément directement impliqué sur tous les schémas et tout le pick and roll, un peu à la manière de Robert Williams. C'est quelqu'un qui va vraiment servir de défenseur plutôt dans les aides pour combler tous les trous grâce à sa grande envergure, son dynamisme et sa mobilité. Donc, on le voit très souvent apparaître sur du second rideau. On le voit beaucoup venir suppléer, boucher des espaces, aller se mettre au niveau des déflexions, casser des angles. C'est un peu la protection de cercle un peu secondaire de si le premier rideau est battu. Quelque chose aussi qui est important avec lui cette saison, c'est que là où, par exemple, la plupart de ses actions arrivaient uniquement quand il était en second rideau, cette saison, il arrive à être, par exemple, sur de la défense, ou du moins sur de la défense entre guillemets homme à homme. Il arrive aussi à bien contenir les attaquants et ne pas subir. Là où, par exemple, il était vraiment efficace uniquement sur off-ball, là, il arrive à être directement impactant sur le joueur qu'il attaque, par exemple. Le fait d'avoir développé un peu sa musculature, notamment au niveau des jambes, il recule moins au niveau du contact. Et du coup, il a moins à devoir piocher, entre guillemets, son énergie, ses appuis pour aller contester un joueur. Il arrive à bien rester debout pour contester avec sa verticalité. Donc du coup, tous ces éléments-là font que Jaren Jackson Jr. et puis une intelligence aussi qui est retrouvée, hein, parce que enfin, c'est t'as l'impression que il a eu la même progression défensive qu'a eu DeAndre Ayton l'an dernier.
Ah, tu casses ma transition, vas-y.
c'est un joueur qui est passé par exemple d'un joueur qui était qui avait des flashs et qui était dans l'ensemble très moyen à vraiment un joueur hyper solide. Qui fait vraiment très très peu d'erreurs. Il fait vraiment très très peu d'erreurs de placement. Par exemple, quand il y a des actions avec, par exemple, des spin pick and roll, il arrive à reconnaître l'action très tôt et du coup éviter de se faire prendre. Quand, par exemple, il y a des double drag screen, bah, il arrive à anticiper le comportement du ball handler et le comportement d'un des deux bigs pour pouvoir contrôler l'action. Là où il a peut-être encore du mal, c'est quand il doit, par exemple, il y a un joueur quand il garde un non-shooter qui est dans l'axe. Par exemple, on a vu le cas à New York contre Mitchell Robinson, où Mitchell Robinson se retrouve à poser des écrans un peu partout sur le périmètre. Bah, il perd parfois l'angle qu'il doit protéger pour ne pas laisser ouverte la raquette. Mais sinon, dans l'ensemble, c'est un excellent défenseur.
J'allais te dire, Alan, que à l'image de ce qu'a pu devenir DeAndre Ayton, c'est un petit peu ce qu'on voit avec Jaren Jackson, bah, la progression logique d'un jeune intérieur. En fait, c'est-à-dire que peut-être, sachant que c'est des joueurs qui ont été draftés haut Et dans le cas de Jaren Jackson qui arrivait avec un pedigree de possible très gros défenseur, bah, j'ai l'impression qu'on oublie parfois à quel point c'est difficile de devenir un défenseur en NBA. Et là, bah, il est en train de montrer qu'avec, après plusieurs années d'expérience, bah, il est capable de devenir ce joueur. On reviendra peut-être sur la nécessité encore peut-être d'avoir un mec comme Steven Adams à côté de lui, mais en tout cas, la progression est logique.
Complètement. Moi, quand je pense à Jaren Jackson, je pense à trois noms. Je pense à Karl Towns, DeAndre Ayton et Robert Williams. Karl Anthony Towns, pourquoi ? Parce que quand il arrive dans la ligue, comme Karl Anthony Towns, il est labellisé comme un prospect défensif et sur les premières années, c'est plutôt l'attaque qui impressionne. Et en fait, le problème de Jaren Jackson, c'était déjà à la fac, c'est qu'en fait, j'ai regardé, en 764 minutes, il avait pris 112 fautes en NCAA. Il arrivait à jouer que 21 minutes par match, il pouvait pas rester sur le terrain, c'était très dur. Donc, comme le Karl Anthony Towns, il y a eu un changement de visualisation, d'idée que perception. Se sont fait les gens, voilà, sur lui. Comme Robert Williams, parce que moi, je regarde beaucoup les matchs de Boston, je vois comment Al Horford aide Robert Williams, et là, je vois comment Steven Adams aide Jaren Jackson. Comme l'a dit Tom, met un mec comme Horford ou Adams, en fait, on les fait pas prendre les décisions les plus importantes de couverture ou d'appel sur pick and roll, et on le fait playmaker, un peu deuxième rideau, sorte de safety de football américain. Donc, il y a des blocs, il y a les interceptions, il y a les déflexions. Et en fait, on utilise le côté playmaker pendant qu'en même temps, on lui apprend comment défendre sur demi-terrain. Je pense que ça va changer un peu Robert Williams. Boston a le meilleur defensive rating depuis 2 mois, je crois, parce que il est incroyable sur deuxième rideau et tout ça. Et DeAndre Ayton, comme vous l'avez dit, parce que c'est normal pour un jeune intérieur de galérer dans ses 2-3 premières années en NBA. C'est super dur. C'est pour ça que quand tous les fans des Warriors disent on va mettre Wiseman en playoff, je dis bah en fait ouais, mais j'attends de voir parce que je suis pas sûr que ça va être super positif. C'est pour ça que Marvin Bagley pour l'instant c'est qu'un scoreur de pick and roll avec Détroit et qu'il a pas l'impact défensif qu'on pense. Et c'est pour ça que voilà, les intérieurs comme celui qui est peut-être le plus impressionnant, c'est Okongwu, mais il joue pas parce que Capella joue énormément. Mais c'est super dur dans les premières, deuxième, troisième années de pas être négatif.
Même Mobley, tu vois. Ça rend exceptionnel du coup.
Mobley exceptionnel et Mobley joue avec Jarrett Allen. C'est les deux.
Ça aussi.
Sachant que, tu vois, leur donner ce rôle de safety, de deuxième rideau, c'est aussi mettre en avant leur qualité athlétique. C'est là où c'est logique. De faire ça, parce que ça leur permet de faire... Enfin, un Jaren Jackson fait des choses que un Steven Adams n'est pas capable de faire. Puis un peu pour revenir sur cette question de progression défensive des jeunes joueurs, il y a aussi ce truc que... Alors là, c'est très personnel comme avis, mais je trouve que la défense, c'est de l'expérience. Et le problème, c'est que quand tu n'es pas assez bon en défense, t'es négatif. Et si tu es dans une équipe qui a un peu de l'ambition, bah, on ne te fera pas jouer si t'es trop négatif en défense. C'est là où Wiseman n'a pas le luxe de faire des erreurs. Et Jaren Jackson l'a eu parce que Memphis n'a pas été... Même si la saison dernière, déjà, Memphis était une équipe qui s'imposait, là, tu vois que le mec a pu apprendre de 2 ou 3 années où il était vraiment... il avait des petits soucis mentaux, enfin dans le sens lecture du jeu, et maintenant il les a pu. À l'image d'un Ayton, en fait. Très bien.
Il rate beaucoup de matchs l'an dernier de mémoire. Il en joue 10. Enfin, il est blessé.
Non, il joue pas beaucoup de matchs. Ouais. Il joue une dizaine de matchs et il arrive pour la saison.
Ouais, avec les playoffs.
Ouais, une
17,
petite dizaine, ouais. Ouais, une petite dizaine, et après, t'as du coup la première série de la série
peut-être
de playoffs.
Peut-être qu'il a fait beaucoup de vidéos. Utah, peut-être qu'il a fait du renforcement musculaire sur le haut du corps.
11.
Et le bas aussi, ouais.
Ouais, complètement. 11,
j'avais vu trop. Qui a joué 17 matchs? Il y a un mec qui a joué.
Avec les playoffs, tu dois arriver à 17 parce qu'ils font 2 matchs de play-in et 5 matchs au premier tour. Donc peut-être que tu es à 17.
Ouais, peut-être pas là. Bref. En tout cas, oui, en tout cas, bah, chapeau. Et c'est peut-être un appel général. Prenons la patience pour les jeunes intérieurs parce que c'est compliqué. Tu vois, peut-être par rapport vis-à-vis de la perception, ce sera ma seule valeur ajoutée dans cet épisode. Vis-à-vis de la perception, faut aussi se dire, c'est peut-être la preuve, alors je ne suis pas scout contrairement à Alan, mais que la transition offensive est beaucoup plus facile que la transition défensive, en fait, tout simplement. C'est pas que les joueurs se sont révélés en attaque, c'est juste que l'attaque se transpose mieux que la défense. Passons, Alan, je t'offre sur un plateau Desmond Bane, vas-y, allez, parle-moi-en.
It will break you.
Comment je pourrais commencer déjà par dire que c'est Boston qui l'a drafté avant de l'échanger à à Memphis parce qu'on voulait pas le.
Merci.
On voulait pas l'avoir. Pas de rien. On voulait pas le garder pour des raisons d'argent. C'est ça, hein, c'est l'argument.
Oui, c'est un salary dump d'Ines Freedom.
On a préféré drafter Aronney Smith en 14. Bah, voilà, c'est très bien. Ça nous apprendra. Non, mais voilà, j'étais peut-être l'un des plus gros fans de Desmond Bane avant la draft, mais ce qui se passe, c'est pas normal. Enfin, pour moi, ça allait être un excellent joueur de rotation, un spécialiste du tir, un mec qui peut peut-être aussi te faire un petit peu de création parce qu'il a joué plus de 115 matchs NCAA, il a joué 4 ans, la mentalité, elle est super. J'avais pu lui poser une question avant la draft à une interview. Il m'avait fait une réponse hyper complète de 2 minutes sur son playmaking en pick and roll. Tu voyais que le gars, il était, enfin, c'est au QI, très bonne mentalité. Mais en fait, ce qui se passe cette année, c'est pas normal. Je me rappelle l'année dernière, au début d'année, Tom, je lui disais, ouais, faut faire jouer Bane. Il disait, non, faut pas faire jouer Bane, c'est bon, arrête, c'est un rookie. Kyle Anderson, il est meilleur et tout. Je disais, ouais, peut-être, mais je te jure qu'il faut que tu le mettes pour ton spacing et tout. Et là, en fait, cette année, bah, c'est un des meilleurs shooters de la ligue. C'est un joueur qui peut créer, qui fait pas beaucoup d'erreurs. Et même si son envergure est négative, ce que les scouts n'aiment pas, c'est-à-dire qu'il a les bras, quand il fait comme ça, il est plus petit que sa taille de base. Il est tellement musculeux, développé qu'il tient les duels, en fait. Donc, ouais, très bonne surprise. Et, bah, c'est un super joueur de basket. Ouais, tout simplement.
Tom, vas-y.
Ben Desmond Bane, le truc qui est intéressant avec lui, c'est que il a un rôle qui est totalement important pour l'équipe, tout simplement parce que Memphis est l'une des pires équipes de la ligue à 3 points, ce qui peut être quelque chose qui est handicapant, notamment pour les playoffs. Et lui, c'est vraiment le rayon de soleil au niveau du 3 points dans cette équipe-là. Hein. Par exemple, quand tu prends cette saison, on parle de shooter exceptionnel, il est uniquement à 17 tirs d'égaler la saison la plus prolifique de l'histoire de Memphis qui a été posté par Mike Miller en 2006-2007 quoi. Donc et il reste une vingtaine de matchs, une petite quinzaine de matchs, allez. Donc normalement il devrait y arriver. C'est un joueur qui associe du coup le volume, la précision, la difficulté des shoots et la variété des shoots qu'il prend. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui peut faire du catch and shoot, c'est quelqu'un qui peut faire du spot up à 3 points, c'est quelqu'un qui peut aussi faire du pull up. Donc du pull up soit du coup après avoir un contest, donc un fly by comme ils appellent ça aux États-Unis, c'est-à-dire que le joueur sort sur lui très agressif sur le close out, il pose un dribble, il se resitue et il met le shoot, ou simplement en remontant la balle, passant derrière l'écran, ralentir un petit peu, faire un petit dribble latéral et s'élever pour shooter. Il a aussi il a ajouté de la distance aussi. Là où l'an dernier en début de saison, c'était essentiellement des shoots près de la ligne, là cette saison on l'a vu mettre pas mal de shoots très lointains. Donc c'est vraiment quelqu'un qui c'est un shooter exceptionnel. Enfin c'est vraiment un excellent shooter, c'est l'un des meilleurs shooters de la ligue. Après je trouve que sur la problématique défensive, je trouve que c'est un bon défenseur d'aide. Malheureusement, contrairement à des joueurs comme Kyle Anderson ou D'Anthony Melton qui composent cette équipe là, ben le fait d'avoir une petite envergure, ça lui permet pas d'être très bon sur les stocks du coup. Puisque en fait lui il a il peut pas couvrir vraiment énormément de terrain avec ses bras, et lui ce qui va le rendre intéressant défensivement, c'est le fait qu'il travaille tôt, c'est-à-dire que il va empêcher l'adversaire d'aller dans les spots, parce que vu qu'il est il est pas grand, une fois que tu es dans ton spot, une fois que le joueur adverse sera dans son spot, on pourra lui tirer au-dessus de la tête facilement. Par exemple, il avait expliqué notamment dans un des podcasts de JJ Redick pour lequel il avait été invité, que par exemple, il avait eu un duel face à Tobias Harris. Et en fait, une fois que Tobias Harris il arrive au niveau de la raquette, ben même s'il lève les bras, Desmond Bane, ben il peut rien faire quoi. Il peut juste voir Harris mettre le shoot. Donc lui, il a la nécessité de devoir travailler tôt. Et je trouve que c'est vraiment le parfait complément à Ja Morant sur le backcourt. Et l'an dernier, en fait, je me souviens pendant l'intersaison, on en discutait avec Alan et je me plaignais en fait de voir trop de Grayson Allen parce que j'en pouvais plus. Et il y a quelque chose qui est très important. il y a quelque chose qui est très important, en fait. Quand tu veux empêcher que... Quand tu veux qu'un joueur joue plus de minutes et que tu es un front office, ben tu transfères le joueur que le coach préfère sur le poste. Et là, ben, Memphis a transféré Grayson Allen à Milwaukee. Toutes les minutes ont été récupérées en partie par D'Anthony Melton et Desmond Bane. Et ces joueurs-là ont très bien évolué, notamment Bane qui est meilleur qu'Andrew Wiggins.
Oh là là, allez, le Andrew Wiggins All-Star n'est toujours pas passé. Tom, on avait aussi parlé, puis c'était échangé des messages par rapport à ça, préparation de cette émission. Comme Bane, un des favoris pour le MIP, j'étais en train de me dire, pendant que vous parliez, il faut qu'il passe un petit croche-pied en sortant des vestiaires à Ja, parce qu'en fait, ça va être Ja, en fait, le MIP.
Ouais, Ja va être MIP, je pense.
Enfin, après, ça prouve la progression de l'équipe d'avoir deux joueurs qui sont dans le top 10, top 8 du MIP, ça prouve que ton équipe a progressé, parce que, enfin, surtout quand c'est deux joueurs majeurs de l'effectif. On va peut-être enchaîner, tu parlais justement du coach, Tom. On va peut-être passer sur le coaching staff avant de tirer les conclusions de cet effectif, enfin, de cette équipe par rapport aux playoffs et peut-être à la suite à plus ou moins long terme. D'abord, le coaching. Je vais me retourner vers Alan le Scout. Est-ce qu'il y a des leçons à tirer de ce qu'a fait Memphis dans ses manières de coacher ou de gérer l'effectif, à retenir pour les autres jeunes équipes? Parce que je vous l'ai dit en off, les gars, je pense que Memphis va devenir une espèce de modèle, voire fantasme, pour beaucoup d'équipes ou de supporters d'équipes en reconstruction, de ce qu'il faut faire pour reconstruire.
Sur la partie front office scouting, je sais que j'en parle pas mal avec Tom, et ça me fait assez plaisir. Ils ont pris pas mal de mecs de ce qui s'appelle le NBA Draft Twitter, aux États-Unis, donc des gars qui faisaient de l'analyse de draft sur des sites très analytiques, très stats avancés, comme de Stepien ou des choses comme ça, des choses que les nerds NBA aiment bien. Et en fait, ils en ont pris trois. Trois de ces jeunes-là ont été pris dans le front office de Memphis, soit en tant que stagiaire, soit en tant que scout pour le high school ou pour les choses comme ça. Et je pense très honnêtement que ça va être copié par les autres franchises NBA. Je pense que parce qu'ils sont maintenant labellisés comme l'équipe qui drafte bien, qui sait trouver des joueurs à tous les étages de la draft avec des profils statistiques avancés qui sauront être positifs en NBA. On n'a pas parlé, mais Brandon Clark, c'est un bon exemple de ça. Xavier Tillman, c'est un bon exemple de ça. John Conchard, c'est un bon exemple de ça. Ce joueur-là, personne ne s'y intéressait vraiment, sauf 2-3 mecs sur Twitter en moment de sa draft. Aujourd'hui, c'est un genre de rotation NBA. Enfin, il n'est pas négatif quand il est sur le terrain. Kylian Tilly, c'est pareil. La draft de Santi Aldama, c'est que ça. Pour en avoir parlé un peu avec des scouts, c'est un joueur qui a été drafté en 30 par Memphis cette année. Personne quasiment ne l'avait sur les big boards, parce que c'est un joueur espagnol qui avait été dans une petite fac aux États-Unis. Mais Memphis, je sais pas s'il sera positif, mais je pense que tout ça va être un peu copié, comme tu as dit. Les sports américains, c'est une ligue de copycat. On prend ce qui marche. Soit on prend des gens du staff, soit on prend des gens du front office et on essaye un peu de recréer ça. Donc je pense que ouais, sur la partie coach, je connais moins que toi, mais sur la partie scout, gérant du front office et tout ça, s'ils prennent pas des gens de ce front office-là, ils vont copier la manière dont ils ont formé leur front office. J'en suis persuadé. Et ça a déjà commencé à Houston, par exemple. Houston fait la même chose depuis un an maintenant.
Pour une fois que... Bref. Houston, du coup, Tom, du coup, au niveau peut-être plus terrain coaching, qu'est-ce qui s'est passé en tout cas? Parce qu'on ne va pas tomber dans le travers commun de ne pas donner du crédit au coach pour ce qui se passe en ce moment.
Déjà, Taylor Jenkins, c'était un coach... il est arrivé en même temps que Ja Morant. Même si, voilà, c'est un jeune coach aujourd'hui en NBA, quand tu vois, par exemple, Popovich qui a dépassé le record de victoires all-time. Et, coach Jenkins, il est là depuis à peu près 3 ans. Il est en train de grandir en même temps que l'équipe. Alors, il a fait des erreurs au début, mais il progresse, il en fait de moins en moins. C'est un vrai leader aussi. Alors, même si on a vraiment la sensation, en fait, j'ai la sensation de revoir un peu le côté Monty Williams, Chris Paul, avec, tu vois,
Jamal. Ils grandissent ensemble.
Voilà, tu vois, le fait qu'ils grandissent ensemble, puisque à l'époque, à New Orleans, c'était un peu pareil. Là, ils se sont retrouvés à Phoenix, mais à l'époque, à New Orleans, c'était un peu pareil. Et je trouve que Jenkins, c'est un coach qui est vraiment très intéressant. C'est, il sort des choses très intéressantes, notamment au niveau, enfin, après les temps morts. Il est toujours positif dans sa communication. Je pense que c'est important, notamment avec des jeunes joueurs. C'est quelqu'un qui priorise pas forcément le réel. Sinon, on aurait, par exemple, il priorise pas forcément il coach pas. C'est pas un coach qui coach tout le temps pour le présent. Comme on peut le voir, par exemple, il y a énormément de minutes pour Zaire Williams qui joue du temps dans le crunch time et tout ça, alors que tu as des vétérans, par exemple, comme Kyle Anderson, des joueurs comme ça qui pourraient mériter de jouer plus, ou du moins qui potentiellement feront moins d'erreurs. Mais je pense qu'il a aussi compris, Taylor Jenkins, que ok, l'équipe est bonne, ok, l'équipe est jeune, mais que les meilleures années normalement de cette équipe-là sont dans peut-être potentiellement 2-3 ans, donc il a besoin de faire évoluer les jeunes. Après, d'un point de vue philosophique, alors offensivement, c'est pas quelqu'un qui va énormément privilégier le pick and roll. C'est quelqu'un qui aime beaucoup avoir des attaques en mouvement, et notamment quelque chose qu'il a commencé à faire cette saison, c'est beaucoup d'actions loin du ballon qui vont impliquer Jaren Jackson Jr. et Desmond Bane, qui sont les deux meilleurs shooters théoriques de l'équipe, qui vont permettre de débloquer énormément de choses du côté de Jamorant, du pick and roll entre guillemets, Jamorant et Steven Adams, et aussi Zaire Williams, qui lui a essentiellement ses shoots qu'il prend dans les coins. Donc il arrive à créer du lien, à faciliter énormément de choses pour ses joueurs. Défensivement, c'est un peu sur le modèle des Bucks. C'est quelqu'un qui vient aussi du front office des Bucks, donc avec énormément de drop, essentiellement de la couverture en drop, la possibilité aussi de faire du edge cette saison avec notamment Steven Adams et aussi Jaren Jackson. Pas forcément énormément de switch, même si c'est quelque chose qu'il utilise, qu'il va essayer d'utiliser notamment en fin de match, mais c'est quelqu'un qui va vraiment utiliser toute la pleine capacité de son roster et les différents skill sets du roster pour avoir après la meilleure composition possible pour se donner le plus de chances de gagner.
Eh bien, les 50 minutes de podcast sont dépassées. On va peut-être se projeter sur les semaines qui viennent et peut-être un peu plus loin, les gars. Alors d'abord, je vais lire une question texto de Tom. Malgré tout ça, est-ce la deuxième meilleure équipe à l'Ouest, équipe de 16 ou de 82 matchs? Mon deuxième apport dans ce podcast, je vais, pour moi, peut-être deux problèmes, ou en tout cas un problème pour cette équipe qui a déjà été beaucoup discuté, donc on va y revenir maintenant. L'attaque sur demi-terrain arrêtée sur des matchs de play-off, est-ce que c'est au niveau, Alan? On peut parler peut-être du clutch, on sait que c'est une stat extrêmement volatile d'être bon dans le clutch. On va le répéter aux fans de Miami qui nous en avaient voulu l'année où on l'avait dit, mais c'est une stat qui est volatile par définition, et ce que font les Suns, c'est presque une énorme anomalie, parce qu'être bon deux années de suite dans le clutch, normalement, ça n'arrive pas.
Ouais, en tout cas. Ouais, mais ils ont Chris Paul.
Oui, ils ont Chris Paul qui est un coutumier du fait à OKC, etc. Alan, est-ce que ce sont, et en particulier, du coup, l'attaque de mi-terrain, est-ce que c'est la grande inquiétude pour cette équipe avant d'arriver en play-off?
Ouais, j'essaie de réfléchir, et on le fait souvent, c'est comment avoir une bonne attaque de mi-terrain en play-off? Bah, pour moi, en fait, il faut potentiellement jouer avec 5 mecs qui peuvent tirer à 3 points sans avoir une liability, en anglais c'est un mauvais mot, parce qu'on fait pas d'anglicisme, un joueur ciblable défensivement, voilà. Est-ce que Memphis a ça? Ça nécessite deux choses pour moi. Ça nécessite le retour de Dylan Brooks à son niveau, parce que j'adore Zaire Williams, mais je préfère avoir Dylan Brooks dans un corner ou à la réception d'un kick out dans une fin de match que Zaire Williams pour le moment. Et ça nécessite que Jaren Jackson tienne dans le clutch au poste 5 si on veut le faire jouer sans Steven Adams, avec potentiellement un autre mec à mettre 3-4 pour jouer de cette manière-là. Je suis pas sûr que, comme l'a dit Tom, dans 2-3 ans, ça pourra être, je pense, une incroyable équipe dans le clutch en playoff. Aujourd'hui, bah, j'ai besoin de le voir, mais je sais aussi qu'en fait, dans le clutch, Jamorant, il va pouvoir aller sur la ligne et il va pouvoir aller se créer des paniers au cercle. Donc, je serais assez, je serais pas, je dis pas que c'est l'attaque des Nets de l'année dernière à 100% dans le clutch, parce que c'est incroyable cette attaque-là. Je dis pas non plus que c'est l'attaque des Rockets de 2018 dans le clutch ou l'attaque des Suns de cette année dans le clutch, l'attaque de Toronto, comme tu l'as dit, l'attaque des Lakers dans la bulle, dans le clutch ou des choses comme ça. Mais je dis que pour une équipe qui a pas mal de ses joueurs dans son contrat...
Ah non, c'était les bonnes, pardon. Bah ouais. Non, du coup, Toronto est pas dedans. Du
c'est
coup,
Toronto 2019, avec Kawhi.
Ah, 2019, oui.
Avec
Kawhi, ouais, pas avant. Oui.
Avec Kawhi, Kyle Lowry, Van Vliet, ils étaient, je crois, de mémoire très très bons dans le clutch. Mais dans une équipe qui a une majorité de ses joueurs en contrat rookie, qui a pas non plus, comme on l'a dit, allez, 2-3 joueurs candidats au DH20, je pense qu'ils ont quand même, par les schémas qu'ils ont et par la capacité de pression vers le cercle qu'on aime bien mettre en avant de Jamorant, de bonnes chances de pas être non plus, allez, un cliché de mauvais basketball dans le clutch, quoi.
Tom, ton avis là-dessus? On est d'accord que c'est la question qui se pose pour Memphis en entamant les... Parce que c'est une équipe qui va bien évidemment aller en play-off, vraisemblablement avec l'avantage du terrain au premier tour. Donc, on en parlera des ambitions plus tard. Donc, c'est le gros point d'interrogation.
Ben, c'est la même question qu'on pose, par exemple, pour Miami. Donc, c'est vrai que ça revient souvent. Simplement pour insister sur deux points, chose que... qui est un peu sous-estimé avec Jamorant. Aujourd'hui, Jamorant, c'est le septième joueur qui tente le plus de lancers francs en moyenne cette saison. Donc, c'est quelque chose qu'il a beaucoup développé, la capacité du coup à aller chercher des fautes, un peu à la manière d'un gars comme Jimmy Butler. Parce que quand tu regardes, t'as Embiid, Giannis, Butler, Harden, DeRozan, Doncic, il est juste devant Trae Young et Shea en termes de lancers francs récupérés en moyenne par match. Donc du coup, ça c'est quelque chose qui peut déjà débloquer une partie de la situation. C'est que comme Alan l'a dit, c'est difficile en fait, il y a pas de couverture homme à homme qui fonctionne avec Jamorant parce qu'il est beaucoup trop rapide. Et aujourd'hui, il arrive même notamment au niveau des trappes. Il y a par exemple pour le match de San Antonio, c'est quelque chose qui me revient en mémoire où t'as une trappe qui se lance, mais il est beaucoup plus rapide et il arrive à prendre entre guillemets le virage, pour ne pas dire turn the corner, il arrive à prendre le virage avant même que le deuxième joueur vienne le cadrer et s'ouvrir le cercle. Donc je trouve que ça aussi c'est quelque chose qui va être important sur du demi-terrain, puisque même si c'est capable de faire de l'isolation également. Et puis il y a quelque chose que statistiquement, c'est vrai que statistiquement quand tu regardes le jeu sur demi-terrain de Memphis. Memphis est à la vingt-troisième efficacité sur de demi-terrain en point par play. Et en fait, ce qui arrive à les sauver entre guillemets sur la partie demi-terrain, c'est toute la partie rebond offensif. C'est pour ça que par exemple, si jamais tu dois jouer un premier tour, par exemple contre Dallas ou même un deuxième tour contre Dallas, ça peut être problématique puisque Steven Adams aujourd'hui c'est quelqu'un qui est très important pour notamment tout ce qui est rebond offensif, et tu peux avoir des cauchemars de ce qui s'est passé avec Zubac si jamais Steven Adams est sur le terrain face à Luka Doncic en playoff, et du coup tu perdrais ta valve un peu de décompression de ce côté-là. Mais après, quelque chose qui est assez bizarre dans le profil statistique, et je pense que c'est quelque chose qui est aussi lié à l'orgueil de cette équipe-là, c'est qu'en fait, même si Memphis est la 23e équipe de la ligue sur demi-terrain en point par play, point par action, quand tu fais quand tu filtres ça par rapport au top 10 défense de la NBA, Memphis est 12e.
Ah, le théorème Hawks, c'est ça.
Voilà. Donc
on joue au niveau de la compétition, c'est ça, Tom.
Voilà. Donc, il y a des choses qui, c'est vrai que ça peut
contre
être.
Contre Houston, c'était pas ouf le clutch le dimanche dernier.
Non, bah pas du tout. Bah, Jaren Jackson, il n'était pas là non plus.
C'est vrai.
Jaren Jackson, il n'était pas là non plus puisque c'est lui qui fait la bascule. Donc je pense que c'est vrai que les questions sont légitimes puisque quand tu vois la faiblesse au niveau du 3 points, on a vu par exemple comment Boston a défendu en première mi-temps.
Ouais.
Sauf que les défenses comme Boston, il n'y en a pas 10 aujourd'hui en NBA.
Concluons cet épisode par les ambitions. Je vais essayer de mettre Tom, de le bloquer dans le coin là.
Alan, on the spot.
Quel est l'objectif à l'instant, pas en se basant sur le début de saison qui forcément avait un objectif moindre, c'est logique. Je pense qu'on ne l'a pas dit, mais on l'a deviné. Même toi, Tom, tu n'espérais peut-être pas Memphis si haut à l'heure actuelle. Là, on est donc le 13 mars, le jour où on enregistre. Quel est l'objectif niveau stade en play-off? Tu voudrais arriver où?
Finale de conf.
Ok, j'aime ça. On n'a jamais vu Tom aussi confiant avec une équipe de Memphis. On peut vous le dire avec Alan, on n'a jamais vu aussi confiant.
Non, c'est ce que je voudrais.
Tu serais déçu si tu perds en demi-finale de conf.
Je serais déçu. Ouais. Je serais déçu.
Ah,
par rapport à ce que l'équipe a montré, je serais déçu.
On a réussi à le mettre dans le coin. C'est bon.
Oh là là, c'est parfait. Donc, c'est l'objectif. Et du coup, Tom, pour toi, c'est réalisable. Du coup, si tu serais déçu par une...
Je pense que c'est réalisable. Ça a montré cette saison qu'ils avaient les moyens de battre. Tout, ils ont battu tous les gros, vraiment, de la conférence. Les Suns, les Warriors, l'équipe qui leur a posé, les deux équipes qui leur ont posé le plus de problèmes d'un point de vue résultat, qui sont actuellement en playoffs, qui sont actuellement dans le bracket des playoffs à l'ouest, ça va être Phoenix. Bon, tout le monde a eu des problèmes contre Phoenix. T'as eu Minnesota, notamment avec un gros blowout et la capacité du coup avec la défense agressive de Minnesota de punir le fait que Memphis n'est pas forcément de playmaking secondaire en l'absence de Dylan Brooks ou d'une menace secondaire au playmaking et à la création et à l'agressivité. Et Dallas avec la problématique Luka Doncic et la défense en drop avec Steven Adams sur le terrain, ça s'est très très mal passé. Donc t'as ça. Mais je pense que même si ça a les moyens d'avoir l'avantage du terrain à toutes les séries avant les Suns et à moyen du coup c'est un avantage qui est pas négligeable et qui a moyen aussi d'aller chercher des matchs à l'extérieur. Donc je pense que en ayant ces différents avantages là, moi je sais pas si alors oui, peut-être que l'expérience va jouer, mais tu vois, les Warriors, ok, ils sont plus expérimentés au global quand tu prends Klay, Draymond et Steph Curry et Godala, mais le reste, on a vu le reste. L'an dernier, il y avait personne. Tu vois, quand il y avait le au niveau du playing, c'était limite Draymond, tout ça, ils étaient laissés à deux et les restes, ils ont pas tant prouvé que ça. Tu vois, Dallas, on peut dire aussi que c'est une équipe qui a entre guillemets plus d'expérience et plus de vécu, mais
de pas du premier
tant
tour
que ça
des
au
players,
final, non. Tu vois, pas tant que ça, voilà, pas tant que ça au final. Donc après, moi, l'équipe sur laquelle j'aimerais pas tomber, c'est Denver. Vraiment, Denver, j'aime, puisque tu veux jamais prendre un MVP.
Ouais.
Tu veux jamais prendre les MVP au premier tour et surtout ce MVP là, même si on les a battus trois fois, mais c'est une équipe qu'on a battu trois fois cette saison mais qui nous a posé énormément de problèmes structurels et ça se jouait, on les a battus trois fois mais on aurait pu perdre trois fois aussi. Donc ouais, je pense que, enfin à mon avis hein, les finales de conf sont possibles. Perdre en demi de conf, ce serait peut-être logique, moi je serais déçu. Mais ce serait peut-être logique, mais je pense que les finales de conf sont atteignables cette saison pour Memphis.
Pour donner un petit élément de contexte avant de donner la parole à Alan, j'avais cité ce fameux article sur les jeunes équipes en NBA. Il y a eu donc 6 équipes qui ont réussi depuis le début de ce siècle à dépasser les 60% de victoires en étant parmi les plus jeunes de la Ligue. 4 ont gagné une série, 3 sont allés en finale de conf. Pour vous donner des petits exemples, on avait 2018-2019 les Nuggets, 2017-2018 les Celtics, 2008-2009 les Blazers. Ensuite, on avait 2010-2011 le Thunder, Thunder de l'année d'avant, et on avait les Suns aussi, qui faisaient partie donc des 6 équipes, les jeunes dominants. Alan, est-ce que pour toi, la finale de conf est atteignable et même l'objectif que devrait avoir cette équipe?
Ça me fait, Tom, t'as pas parlé d'Utah, c'est fini.
Ah non.
Utah, c'est pas un concurrent à la finale de conf.
Oui, okay. Ça l'est.
Okay. Non.
Ça l'est, mais cette saison ils ont posé à Memphis moins de problèmes que les autres équipes.
Que sur la série de l'an dernier après le match 1.
C'est ça. Puisque c'est plus la même équipe, même si on les a affrontés l'an dernier, l'équipe de Memphis de l'an dernier, c'est pas la même équipe que l'équipe de Memphis de cette année.
Complètement. Moi, je l'ai dit avant qu'on commence. Je dis pas que je serais déçu s'ils vont pas en finale de conf. Je dis que je pique Memphis s'ils ont l'avantage du terrain dans n'importe quelle série des demi-finales de conférence. Donc que ça soit contre Golden State, Denver, Dallas, les Clippers, si jamais les Clippers ou les Lakers arrivent à passer, je sais pas comment.
Ne parlons pas des Lakers.
Ça se fera pas, mais voilà, je choisirais Memphis sur, comme on a dit, la possibilité de ne pas mettre de mauvais joueurs sur le terrain, la capacité de la salle aussi. Enfin, je trouve qu'il se passe un truc à Memphis dans la salle. Il y a beaucoup plus en plus de gens. Enfin, le match contre San Antonio là où déjà c'est un pauvre lundi soir et tu vois déjà que quand il met déjà la salle est un peu en feu. J'ai l'impression qu'il se passe un truc autour de ça. Ça peut faire un vrai bon avantage du terrain pour les Grizzlies. Et puis en fait, je trouve qu'en fait, ça fait quoi ça va faire 6 ans qu'on fait le podcast. On s'est déjà fait avoir par non, ils sont trop jeunes, non, ils sont ça. Et il y a des équipes plus vieilles de grognards un peu qui vont un peu pouvoir se mettre en place en playoff. Voilà, 2019, les Celtics, ça m'a marqué. Quand t'es nul en saison régulière, l'espèce de turn-off, switch-off, là, j'ai envie de faire confiance à ce que je vois sur 75-80 matchs de saison régulière.
On s'est fait avoir quand?
Moi, je trouve qu'on s'est déjà fait avoir.
Bah, Toronto,
Je trouve qu'on s'est déjà. En fait, c'est pas qu'on s'est fait avoir, c'est on n'a pas.
On s'est fait avoir par Toronto. Attends.
Non, Toronto, on s'est pas fait avoir. Peut-être toi, mais pas Ben et moi. Mais en fait, non, je trouve qu'on s'est pas fait avoir, mais on n'a pas fait assez confiance peut-être à des équipes qu'on pensait. Ouais. C'est plus dans l'autre sens, on va dire.
Oui, je vois. C'est se dire, oui, bah, une fois arrivé en playoff, ils vont peut-être prendre. C'est pas tellement surestimer les autres, mais les sous-estimer eux.
Des équipes comme Denver.
Ouais, les Nuggets au début. Les Nuggets au début.
Ouais, ils ont quand même fait ce qu'ils avaient à faire. Des équipes comme. Bah, Atlanta l'an dernier, enfin, ça peut être un exemple. Après, bon, la série contre Philly, on peut la refaire 10 fois. Je pense que Philly passe 8 fois, mais c'est quand même arrivé. Donc, en fait, je me dis, pas de mauvais joueurs sur le terrain, un bon coaching staff, une star en ascension de devenir et qui est déjà peut-être une superstar, une assise défensive, des joueurs d'expérience, Adams, Anderson, qui connaissent les joutes de playoff. Donc, Adams et Anderson, c'est peut-être les deux seuls, avec d'autres, hein, je dois me tromper, mais de la rotation importante, on va dire. Le retour de Brooks en Factor X. Ils ont tout pour moi pour être des candidats à la finale de conférence. Et si je dois les mettre contre les Warriors aujourd'hui, parce que c'est la question qu'on pose souvent, je suis désolé, je suis pas fan de ce que je vois des Warriors, et même depuis le début d'année, parce qu'ils jouaient que contre des équipes de nuls dans un homestand qui a duré 11 matchs. C'est pour ça qu'ils ont super bien commencé l'année. Et je sais pas quel Draymond j'aurais. Donc,
ouais, c'est la question de Draymond.
La seule petite différence, je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit, la seule chose c'est que je pense que là où parfois on a peut-être surestimé des équipes de vétérans, alors oui, les Warriors ont eu des situations de début de saison très avantageuses, et de toute façon la fin de saison va donner raison à Memphis parce qu'ils devraient finir devant, enfin au vu du calendrier, etc. Mais on a quand même vu des très bonnes séquences des Warriors. C'est pour ça, je suis peut-être traumatisé par ce que j'ai vu avant, mais on a quand même vu les Warriors très bons sur séquences qui ont livré des très bonnes copies. Donc là, c'est pas, en gros, c'est pas comme dire les Lakers de l'année dernière vont se réveiller, par exemple.
Pour moi, c'est Jane. Les Celtics du début des années 2010, là, ouais, ils font saison un peu mauvaise. Ouais, c'est les vétérans, ils sauront, ils connaissent le chemin et tout ça, ce genre de
là, on a déjà vu. Alors peut-être que oui, je vous avoue que si on me demande là à l'instant de choisir un vainqueur de cette série potentielle, j'hésiterais beaucoup. Je pense que j'hésiterais peut-être plus que vous, mais ils ont toujours, je pense, ils ont montré des choses quand même. Mais ouais, effectivement,
je pense que les Warriors sont, si par exemple cette série-là se fait, je pense que les Warriors seraient favoris, même s'ils n'ont pas l'avantage du terrain. Je pense que les Warriors seraient favoris.
Sûr.
Mais je miserais quand même sur Memphis.
Parce que les Warriors étaient déjà dans les top 4 titres, alors qu'il y avait très peu d'assurance cet été. Donc, sûr, ils seront. Je pense même qu'ils seront plus près chez les bookmakers de battre les Suns que de perdre contre Memphis.
Complètement.
Clairement.
C'est assez fou. Très bien. Eh bien, Tom, on se retrouve en 2027 pour parler des Grizzlies. Du coup, non, s'ils suivent le chemin qu'on leur a tracé, là, on va parler d'eux très, très vite. C'était un plaisir, messieurs, dans un podcast. Je suis un peu arrivé comme un cheveu sur la soupe. J'étais pas censé être là, mais vous m'avez appris beaucoup de choses, donc j'en suis heureux. Eh ben, du coup, on vous remercie de nous avoir écoutés. On vous invite à nous suivre sur toutes les plateformes de podcast, Apple Podcast, Spotify, 5 étoiles sur les deux, Acast également, Podcast Addict, YouTube. Alain fait le signe des 5 étoiles, effectivement.
5 stars.
5 stars. Et puis, on se retrouve, nous, très vite pour un nouvel épisode du podcast Dunk Hebdo. Salut, bonne semaine.
Salut.
Salut.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.